Jean-Henri Merle-Daubigné, Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Tome 1, Livre 1, Genève et les premiers Huguenots. Chapitre 7. Assemblée, agitation et jeux comiques des patriotes, 1516 à 1517. Quelques patriotes se réunissent. Assemblée du Mollard. Le serment des patriotes. Le repas chez Munier et le Momont. Plaisanterie de Bonivard. Mort de la mule de Messire Gros. Berthelier propose une farce. Publication pour la peau de la mule. Le duc se rend à Genève. Cécel veut désunir les Genevois. Complot du duc et de l'évêque. Berthelier se mit sans tarder à l'œuvre à laquelle il avait juré de consacrer sa vie. Voulant la préparer avec soin, il invita les enfants de Genève, les plus passionnés pour l'indépendance, à conférer avec lui sur le salut de la patrie. Il ne choisit pas pour cette réunion quelques prairies isolées au-dessus des bords du lac, comme le Grutli. C'était aux habitants d'une ville qu'il avait affaire, et non à des enfants des montagnes. Il prit donc une salle située dans la principale place de la ville, presque baignée, alors, par les eaux du fleuve, celle du Mollard. Et il fixa pour le rendez-vous une heure où les rues étaient peu fréquentées. Un soir donc, probablement en 1516, il n'est difficile de déterminer exactement l'époque de cette importante assemblée. Entre jour et nuit, Berthelier d'abord, puis quelques autres patriotes se rendirent au Mollard. Ils arrivaient du côté du Rhône, du côté de Rives ou de la cité. Ceux qui venaient du haut de la ville descendaient la rue du Perron. En marchant, ils s'entretenaient de la tyrannie d'évêques et des complots des princes de Savoie. L'un de ceux qui paraissait avoir le plus d'influence était Amédée de Joie. Né de parents distingués, probes et louables, qu'il avait vertueusement élevés. La voix publique, tout en disant qu'il était bon vivant, ajoutait qu'il était honnête, nullement trompeur, et qu'il fréquentait tous les hommes de bien de la ville. Il n'exerçait d'honorable profession de vendeur d'aromates et d'apothicaire, et il avait constamment joui dans son état d'une très bonne réputation. Non loin de lui se trouvait André Navis. Un changement s'était accompli dans le fils du procureur fiscal. La cause de la liberté s'était présentée à cette âme ardente dans toute sa beauté. Il n'avait cru trouver en elle le bien inconnu qu'il cherchait avec avidité. Son imagination s'était enflammée. Son cœur avait été ému, et quittant le parti savoyard, dont son père était l'un des chefs, il s'était jeté avec sa fougue naturelle du côté de l'indépendance. Un de ses amis l'avait suivi. Jeune homme d'environ 24 ans, Jean Biderman, dit Blanchet. Plein d'esprit naturel, ennemi du travail, grand ami de la plaisanterie, Blanchet trottait sans cesse çà et là, ramassait tous les bruits, les répandait à tort et à travers, et se faisait des affaires avec tout le monde. Il avait pourtant au fond le cœur sensible, et la tyrannie de l'évêque l'indignait. Berthelier, arrivé l'un des premiers dans la salle, considérait attentivement ces jeunes gens et les hommes plus graves qui se joignaient à eux et éprouvaient à leur vue un sentiment de bonheur. Il y avait en lui un être supérieur aux folies des banquets. Le train journalier, les petites passions, la vulgarité des esprits, la vie telle qu'il n'avait connue jusqu'alors, le fatiguait. Enfin, il avait devant lui une assemblée réunie pour la noble cause de l'indépendance. Aussi serrait-il affectueusement la main à tous ceux qui arrivaient. La cloche de vêpres sonna dans ce moment à la vieille église de la Madeleine et se fit distinctement entendre au Molard. Il y avait alors autour de Berthelier environ 50 citoyens. Petite assemblée, et pourtant plus nombreuse que celle de Walter Fürst et de ses amis. D'ailleurs, tous les cœurs nobles qui battaient dans Genève n'étaient-ils pas d'accord avec ces 50 patriotes? Le cercle se forma autour de Berthelier. On fit silence. L'héroïque citoyen rappela que dès les temps les plus antiques, Genève avait été libre, mais que depuis un ou deux siècles, les princes de Savoie voulaient la servir, et que le duc n'attendait que le moment favorable pour imposer à leur patrie sa souveraineté usurpée. Puis, fixant sur ses auditeurs son noble regard, il leur demanda s'ils voulaient transmettre à leurs enfants, au lieu de la liberté, la servitude. Les citoyens répondirent non, et s'enquirent avec anxiété comment la liberté de la ville pouvait être sauvée. Ouverture de guillemets. Comment? Dit Berthelier. En étant unis, en oubliant nos querelles particulières, en nous opposant d'une âme unanime à ce que nos droits soient violés. Nous avons tous les mêmes franchises, et ayons tous le même cœur. Si les officiers de l'évêque mettent la main sur l'un de nous, que tous les autres le défendent avec leurs armes, avec leurs ongles, avec leurs dents. Puis il s'écria, « Qui touche l'un, touche l'autre. » À ces mots, tous levèrent la main et dirent, oui, un même cœur, un commun accord, qui touche l'un, touche l'autre. Eh bien, reprit Berthelier, que ce mot soit le nom de notre alliance, mais soyons fidèles à cette noble devise. Si les sergents de l'évêque conduisent l'un de nous en prison, arrachons-le de leurs mains. S'ils se livrent à des exactions coupables, allons chercher jusque dans leurs maisons leurs abominables rapines. » Et il répéta de sa grande voix, « Qui touche l'un, touche l'autre. » Fermeture de guillemets. Pourtant, au milieu de l'enthousiasme, on remarquait sur quelques visages des signes de crainte. Un citoyen demanda avec quelque angoisse ce que l'on ferait si Monseigneur de Genève, aidé de son Altesse, attaquait la ville avec une forte armée. « N'ayons peur de rien, » répondit vivement Berthelier, « nous avons de bons amis. » Peu après, il ajouta, « J'irai vers les Suisses, j'en amènerai une bande, et alors je solderai le compte de nos adversaires. » Dès lors, les consultations et les débats devinrent de plus en plus fréquents. On discutait dans les familles, à Saint-Victor, chez les principaux citoyens, quelquefois même sur la place publique. On se rappelait mutuellement les us et franchises de Genève, et l'on se promettait de leur être fidèle. Un jour, Berthelier, Blanchet et plusieurs autres citoyens se réunissant chez Munier pour deviser autour de la table des intérêts communs, y amenèrent malheureusement un homme vil et corrompu, créature de l'évêque, nommé Carmentran. On s'assit, on prit gaiement le verre en main, et bientôt les têtes s'échauffèrent. « L'évêque, s'écria l'un des convives, a vendu Genève au duc. S'il trahit ses serments, dit un autre, sa trahison ne nous dégage pas des nôtres. Quand les princes foulent la loi sous leurs pieds, les citoyens doivent à tout prix la maintenir. Et il faut faire connaître à l'évêque, dit Berthelier, la résolution où nous sommes de défendre notre indépendance. Cela n'est pas facile, répondit-on. Comment aborder Monseigneur et oser lui dire toute la vérité? Prenons des masques, reprit-il. On peut dire sous le masque de dures paroles. Faisons un momon à l'évêché. Fermeture de guillemets. On appelait alors momon un défi au jeu de dés porté par des masques. Pécola ne paraissait pas convaincu. Laissez-moi faire, dit Berthelier, je saurai bien parler au prélat. Carmentran, rentré en lui-même, écoutait silencieusement. Il gravait dans sa mémoire toutes les paroles du grand patriote, prêt à y ajouter ses interprétations particulières. Il prétendit plus tard que Berthelier avait une intention d'attenter au jour de l'évêque. Mais le contraire fut prouvé, et même la farce du moment ne fut jamais jouée. N'importe, la moindre plaisanterie était changée alors en crime de lèse-majesté. Berthelier n'était pas le seul que l'évêque faisait épier. Bonivard, toujours plein de saillie, donnait prise au délateur. Il avait alors un différend avec l'évêque concernant la pêche du Rhône. Un jour, en se promenant, il en parlait avec Berthelier et d'autres amis, se plaignait de l'avarice du prélat, puis il se livrait à la plaisanterie. « Si je le rencontre près de ma pêche, dit-il en riant, lui ou moi nous prendrons un mauvais poisson. » On fit de cela un gros chef d'accusation. Il voulait noyer l'évêque. On se trompait. Bonivard n'était pas d'un caractère violent. Mais il avait de l'ambition, et, sans faire du mal à l'évêque, il en voulait secrètement à l'évêché. Ouverture de guillemets. « J'irai à Rome, dit-il un jour à l'un de ses intimes amis, et je ne me ferai pas raser la barbe, que je ne sois évêque de Genève. » Fermeture de guillemets. Cependant, la cour de Turin n'oubliait pas la fameuse décision des cardinaux. Quelques paroles plaisantes ne suffisaient pas pour démontrer au Sacré Collège que le peuple de Genève était en révolte. Une émeute, comme l'appelèrent les Savoyards, vint fournir à ce parti les armes qu'il cherchait. Le 5 juin 1517, on ne parlait dans toute la ville que de la mule de Messire Gros, laquelle était morte. Cette mule était célèbre, car le juge la montait quand il faisait ses poursuites judiciaires. On discutait gravement dans les rues et les banquets les causes de la mort de cette bête illustre. Ouverture de guillemets. C'est Adrien de Malvinda, disaient les uns, cet Espagnol dont le père est venu de Valence la Grande, qui, ayant une oise avec le juge dans un festin, a coupé les jarrets à sa bête. Non, disaient d'autres, quelques enfants de Genève ayant rencontré le juge sur sa mule ont voulu l'effrayer. Ils ont crié, tiré l'épée. Ses serviteurs ont fait de même. Et l'un d'eux a maladroitement blessé sa mule, qui en est morte. Fermeture de guillemets. Messire Claude Gros ou Grossi, juge des trois châteaux, Penay, Thiers et Jussy, était de ces magistrats impitoyables qui se font détester de tout un peuple. On l'accolait à cet égard au procureur fiscal Pierre Navis, et souvent Berthelier, de l'une, de la toit, les avait menacés d'un et l'autre de la vengeance des patriotes. Leur haine pour ces deux magistrats était telle qu'André Navis, lui-même, en souffrait. En vain s'était-il donné de tout son cœur au parti de la liberté. On le regardait avec défiance, et chacun se demandait s'il pouvait venir quelque chose de bon de la maison du procureur fiscal. André avait eu récemment, à ce sujet, un différend avec Jean Cauneau. Les deux jeunes gens s'étaient pourtant réconciliés. Et le soir même du jour où la mule était morte, Cauneau payait un banquet à Navis et à 30 enfants de Genève. On appelait ainsi les jeunes gens en état de porter des armes. Ce soir-là, pourtant, quelques citoyens plus âgés s'étaient réunis à eux. On voyait à table Berthelier, J. de Lune, E. de la Mare, J. de la Porte, J. de la Toit, J. Pécola. Messieurs, dit Berthelier après le souper, il y a bien longtemps que l'on a vu une si belle compagnie faire quelques drôleries. Tous furent d'accord. Berthelier aimait à narguer ses adversaires sans se soucier des conséquences. La mule de respectable messire Claude Grossi est morte, reprit-il. Ce juge est un méchant qui ne cesse de traquer nous et nos amis. Faisons une farce. Vendons, au son du tambour, la peau de sa mule au plus offrant et dernier enchérisseur. Fermeture des guillemets. La proposition fut adoptée par acclamation. Deux ou trois pourtant faisant mine de se retirer. « Que tous suivent le tambour, sous peine d'un écu d'or, » dit Berthelier. « Oui, » s'écrièrent les plus étourdis. « On sait que dans toutes les cours, et même chez beaucoup de grands seigneurs, se trouvaient alors des fous qui avaient le privilège de dire impunément les plus grandes vérités. » L'abbé de Bonmont en avait un, appelé Maître Petit-Jean, au petit pied. Berthelier, voulant que cette action gardât jusqu'à la fin le caractère d'une bouffonnerie, fit venir Petit-Jean. « Tiens, lui dit-il, voici une proclamation que tu crieras dans les rues. Marche !» Tous sortirent avec leurs rapières et tambours en tête. Ils se mirent à parcourir les rues, s'arrêtant sur chacune des places où se faisaient les publications ordinaires. Après le roulement du tambour, Maître Petit-Jean au petit pied cornait avec son cornet et criait de sa voix grêle « Oyez, 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 on vous fait savoir que s'il y a un qui veuille acheter la peau d'une bête, de l'âne le plus gros de Genève, il s'en vienne entre la maison des Sceaux et la maison de Ville. À plus offrant, on l'expédiera. » « N'est-ce pas là que demeure le juge Gros ? » disait un homme de la foule. « Eh oui, répondait un autre. C'est lui qui est le gros âne. » Un éclat de rire universel suivait chaque proclamation. André Navis, surtout, se livrait aux plus bruyantes démonstrations. Il tenait à montrer qu'il était aussi bon patriote que les autres. Les plus âgés des patriotes étaient pourtant inquiets. Le vieux Lévrier trouvait qu'on allait trop vite en besogne. « Ah, dit-il, ces jeunes gens nous en feront voir de belles. » Certes, ajoutaient d'autres avec dépit, ce Berthelier a un talent admirable pour susciter beaucoup de querelles. La promenade dura une partie de la nuit. Le lendemain, le juge des Trois Châteaux se hâta de déposer sa plainte devant le vidame et le conseil épiscopal. Le vidame demanda l'arrestation des coupables qui disparurent. Sommé, à son de trompe, de comparaître au château de Lille, sous peine de 100 livres d'amende, ils sortirent alors de leur cachette. Et le fier Berthelier intenta un procès au vidame pour avoir menacé lui et ses amis d'une amende qui n'était pas justifiée par la loi. Les partisans de sa voix furent encore plus exaspérés. Ouverture de guillemets. « Il y a conspiration contre Monseigneur l'évêque, prince de Genève, » s'écriait-il. « C'est à lui seul qu'il appartient de faire des proclamations. » Fermeture de guillemets. Ils écrivaient lettre sur lettre à Turin et transformaient la farce du fou en crime de lèse-majesté. Les princes de Savoie pensèrent en effet que c'était là un désordre dont il fallait tirer avantage. Charles passait, dans ses états héréditaires, pour être perplexe à résoudre et mou à exécuter. Mais dès qu'il s'agissait de Genève, il se lançait dans les entreprises hasardées. Il donna à sa cour l'ordre du départ. Prit avec lui l'un des plus savants diplomates de l'époque, Claude de Sicel, dont il pensait avoir besoin pour les grandes affaires qui allaient se traiter, et arriva à Genève. Aussitôt, le vidame tout échauffé de l'histoire de la mule vint présenter son hommage au duc et lui dépeignit la situation sous les plus sombres couleurs. Ouverture de guillemets. « Vous le voyez, dit Charles à ses conseillers, les citoyens de Genève se révoltent. Il faut, pour les ranger à leur devoir, plus fort berger qu'un évêque. » Fermeture de guillemets. Mais Cécel était un homme de grand jugement. Il n'était novice ni en gouvernement, ni en histoire. Il avait étudié et même traduit en français Thucydide, Appien, Diodore, Xénophon. Il s'informa plus exactement de l'affaire. Apprit que la proclamation avait été faite par le fou de l'abbé de Bonmont, et que c'était ce même personnage qui chantait habituellement dans les rues. Toutes les chansons comiques que la verve satirique des jeunes voix faisait éclore. Le grand diplomate sourit. Ouverture de guillemets. Cette affaire de la mule est une plaisanterie, dit-il au duc. Les fous, vous le savez, ont le droit de tout dire et de tout faire. Et quant à la troupe de plaisants qui entourait ce bouffon, ne transformons pas ces jeunes étourdis en Cétégus et en Catilina. Jamais les cardinaux ne consentiront à nous donner, pour une telle sottise, la souveraineté temporelle de Genève. Ce serait trop, monseigneur, pour le premier coup. Il faut monter au souverain fait par les moindres degrés. Toutefois, cette histoire ne nous sera pas inutile. Nous nous en servirons pour mettre la désunion parmi nos ennemis. Fermeture de guillemets. En effet, l'abbesse Cécile, s'étant entendue avec l'évêque, celui-ci fit appeler en sa présence ceux de la bande, c'est-à-dire des enfants de Genève, qu'il croyait de plus légères desserts, plus faciles à séduire. Vous ne gagnerez rien à suivre un tas de mutins et de séditieux, leur dit Claude de Cécile. En faisant cette publication, vous avez commis un vilain acte, et vous pourriez, à bon droit, être puni corporellement. Mais l'évêque est bon prince, enclin à miséricorde. Il vous pardonnera à tous, sauf à Berthelier et à ses complices. Il vous donnera même office, état et pension. Seulement, ne vous mêlez plus avec les séditieux. Plusieurs, joyeux d'être sortis de cette peine, remercièrent cordialement Cécile et lui promirent qu'on ne les verrait plus avec les turbulents. Le bâtard se montra plus difficile pour le fils du procureur fiscal. Les bravades d'André Navis, lors de la proclamation de la mule, avaient excité toute la colère du prélat. Il paraît que le pauvre père n'osa intervenir pour son enfant prodigue. Un de ses amis obtint sa grâce, mais seulement après que Navis eut promis de s'amender. Il rentra dans le bureau de son père. On y voyait courber sans cesse sur les lois et les actes du fisc. Cette manœuvre ayant réussi, et le parti des hommes libres se trouvant ainsi affaibli, l'évêque, le duc et leurs gens pensèrent qu'il fallait lui couper la tête. Cette tête était Berthelier. Toutefois, il n'était pas facile de se défaire de lui. Il était membre du conseil, fort considéré dans Genève, d'une habileté et d'une énergie qui déjouaient tous les efforts. Ouverture des guillemets. Pour avoir cette grosse perdrix, dit l'évêque, il nous faut attraper auparavant une petite chanterelle. Fermeture des guillemets. L'avis parut excellent. Les princes résolurent donc de saisir quelque ami de Berthelier, moins redouté que lui, qui par ses dépositions, la question ne lui serait pas épargnée, compromettrait les meilleurs citoyens de Genève. La chanterelle, par ses cris, attirerait les gros oiseaux dans les filets tendus pour les prendre. Thank you.